Du dessin classique au crayon à papier, aux compressions de tôle de camion accidentées, l'évolution du travail artistique de Cyril Verdaven semble déroutante. Ajoutez à cela l'utilisation de pigments naturels et le détournement de déchets automobiles, et vous comprendrez mieux le cheminement personnel de l'artiste.
Effectivement, j'ai commencé vraiment très très petit avec quand même... J'ai la chance de naître avec des talents de dessinateur, bon, ce qui était très agréable pendant un bon moment. Et puis après, bon, si vous voulez, je me suis intéressé beaucoup plus à l'émotion face à un objet. Alors ce que ça veut dire, c'est qu'on n'abandonne pas le dessin comme ça d'un jour à l'autre. On s'intéresse plus à la trace. La trace, c'est-à-dire que je suis passé du figuratif pur et dur comme le dessin... au crayon, et la représentation d'un objet réel sur papier a, si vous voulez, un côté plus expressionniste dans ce que je faisais. Alors, il y avait effectivement certaines parties de ce que je faisais qui restaient reconnaissables, comme des corps, des études de nu. Et puis, bien sûr, dans, si vous voulez, toute la composition, j'avais quand même des traces de peinture qui étaient plus ou moins expressives. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que de l'expressionnisme, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait réellement, c'était la texture. Donc, que ce soit d'un objet fabriqué de toutes pièces ou d'un objet d'ailleurs récupéré, ce que je fais maintenant beaucoup. Donc moi, ce qui m'intéresse énormément, c'est d'aller justement dans les cimetières de camions, de voitures, là où il y a eu des accidents et des carambolages et qui sont complètement laissés à la nature, bon, ce qui n'est pas bon. Mais ce qui se passe, c'est que je récupère quand même des pièces qui sont très intéressantes au niveau du pliage, même de la décomposition, parce que même tout ce qui est rouillé, ça a une texture qui est très très intéressante. Par exemple, moi, une pièce qui est rouillée, finalement, c'est du pigment orange. Et ça, pour moi, c'est génial. Donc effectivement, aujourd'hui, je me retrouve avec des compositions qui sont soit faites de métal pur, récupéré, ou alors j'ai du verre, j'ai quand même pas mal de verre dans ce que je fais. Si je fabrique les pièces de toutes pièces, j'utilise du polymère 34, qui est une espèce de polystyrène que je fais fabriquer en laboratoire aux États-Unis, mais qui là est poreux. Donc la couleur est absorbée, et elle est gardée, et la couleur reste très pure. Ce qui a en fait des effets qui sont assez sympathiques, parce que les couleurs explosent. Là, du coup.
Comment vous choisissez ces pigments naturels? D'où viennent-ils?
En fait, ils viennent de partout dans le monde. Il y a des pigments partout. Le pigment en lui-même, le pigment naturel, est complètement minéral. C'est une pierre que l'on broie. Moi, j'ai des gens aux États-Unis et en Allemagne, d'ailleurs, qui s'occupent de les broyer pour moi. Maintenant, vous devez savoir qu'il y a des couleurs qui sont très rares et donc extrêmement chères et auxquelles, non seulement je n'ai pas accès, mais en plus, les gens ne les achèteraient pas parce que vous avez des couleurs qui sont quand même à 1 000 $ le gramme. C'est énorme. Là, ça devient des couleurs de synthèse, donc je suis quand même obligé de les faire en labo. Mais pour répondre à votre question, les couleurs viennent de partout dans le monde.
Est-ce qu'il y a une véritable sensibilité à la protection de l'environnement? Vous disiez tous ces camions dans ces cimetières à camions aux États-Unis, de camions accidentés. Quelque part, ils se décomposent, ils n'ont rien à faire là. Vous leur donnez une deuxième vie?
Alors, c'est exactement ça. Alors, je vais vous dire, moi, quand je suis arrivé la première fois dans l'un de ces cimetières, ce qui est quand même incroyable et assez scandaleux, je dois dire, c'est que c'est laissé là. Et ça pollue, évidemment, parce qu'on a vraiment du métal qui est rouillé, qui est même à la limite, il y a un peu de radioactivité dans ces histoires. D'ailleurs, je porte un masque et des gants quand je récupère. C'est choquant, c'est assez choquant. Donc en fait, j'ai commencé à faire ça à la recherche d'une texture, à la recherche de quand même une histoire, parce que c'est très intéressant de récupérer ces pièces qui ont... des provenances qu'on ne sait pas, ce sont des événements qui sont la plupart du temps malheureux. Bon, moi je les récupère et en même temps, je fais le ménage, ce qui est assez sympa. On m'a remercié d'ailleurs pas mal de fois en Caroline du Nord, j'avais des petits paysans qui passaient et qui me demandaient ce que je fais, etc. Et qui c'est vrai, étaient quand même assez malheureux de voir des champs entiers qui sont recouverts de pièces et de camions et de voitures qui se décomposent et qui ne vont nulle part et qu'on ne bouge pas, parce que c'est vrai que ça demande énormément d'argent de bouger des pièces comme ça. Et moi, je viens avec mes deux petites mains et on y va, voilà.
Et vous prenez ce que vous pouvez prendre.
Exactement. Je les fais envoyer sur New York, dans mes ateliers, je les traite, je les transforme et ensuite, voilà. Et ensuite, j'en fais des expos.
Vous aurez certainement reconnu derrière nous l'ambiance sonore d'un vernissage. C'était celui qui se déroulait au Gildo Pasteur Center de Monaco. Les œuvres de Cyril Verdaven y sont encore visibles jusqu'au 6 janvier. Après cette date, il ne vous restera plus qu'à vous rabattre sur son site cyrilverdaven.com pour admirer le travail de l'artiste.
C'était une interview réalisée par Stéphanie Reynaud.